Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver au Parlement européen pour une nouvelle émission Fréquence Europe, l'émission sur l'Europe des radios Judaïca Strasbourg et Bruxelles. Alors cette semaine se tient la session plénière du mois de février et à cette occasion nous avons le plaisir de recevoir Véronique Trier-Lenoir, députée européenne du groupe Renew Europe. Bonjour.
Bonjour.
Alors Madame Trier-Lenoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette semaine, différents sujets sont à l'ordre du jour de la session, dont notamment le budget à long terme de l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Alors pour expliquer à nos éditeurs, il y a des négociations difficiles car les États membres rechignent à mettre la main au portefeuille. Il y a également les relations futures avec le Royaume-Uni, désormais pays tiers, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. L'adoption ou non par les députés européens de l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam. Ou encore les défis de l'intelligence artificielle au regard de la protection des consommateurs. Voilà des vastes sujets. Nous reviendrons sur quelques-uns de ces sujets. Nous profitons aussi de votre présence pour nous intéresser à la politique de l'Union européenne dans la lutte contre le cancer. Alors avant de débuter cette interview et afin de mieux vous connaître, je vous propose tout d'abord d'écouter ce petit portrait.
Madame Véronique Trier-Lenoir, bonjour. Alors, vous êtes députée européenne, nouvellement élue lors des élections européennes du 26 mai dernier. Lyonnaise d'origine, vous êtes professeure des universités et praticien hospitalier, spécialisée en cancérologie au centre hospitalier et universitaire de Lyon et professeure associée de la faculté de médecine de Shanghai. Vous présidez également le directoire Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes également membre du conseil d'administration de l'Institut national du cancer. Vous êtes arrivé en politique à l'occasion des élections régionales de 2015 sur la liste de gauche menée par Jean-Jacques Kerran et vous serez élu, mais siégerez dans l'opposition. Soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017, vous rejoignez le groupe politique En Marche au Conseil régional. 17e sur la liste Renaissance, vous êtes donc élue députée européenne et siégez au Parlement européen au sein du groupe Renew Europe. Afin de continuer à mettre à profit vos compétences, vous avez choisi d'être titulaire dans la commission parlementaire de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi que dans la délégation Union européenne-Chine.
Voilà, donc ce petit portrait. Alors on voit bien que vous êtes médecin de formation, que vous êtes donc cancérologue. L'Europe ne semble pas jusque-là faire partie de vos sujets de prédilection, puisque vous avez fait d'autres métiers et à la base, on ne sent pas l'Europe dans le petit portrait qu'on a présenté. Pourquoi ce choix de l'Europe et pourquoi ce choix d'un mandat européen plutôt qu'un autre, puisque maintenant vous étiez conseiller régional, mais vous passez au mandat européen ?
Alors, je suis quand même, depuis 62 ans, citoyenne européenne. Je fais partie de cette génération qui a vu les grandes avancées, en particulier la mobilité des personnes et des marchandises, la monnaie unique, Erasmus, la chute du mur. J'ai l'âge d'avoir vu l'Europe se construire et je me sens européenne. L'engagement européen est dans vraiment la continuité de ce que j'ai fait jusqu'ici, où j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir les limites de mes engagements locaux, puis régionaux, puis nationaux. Il y a clairement des sujets de santé qui ne peuvent se traiter qu'à l'échelle européenne.
On va y revenir sur les sujets de santé. Alors concrètement, qu'attendez-vous de ce mandat ?
C'est bien évidemment de m'inscrire dans la logique d'une délégation et d'un groupe qui défend de nombreux autres sujets que ceux dans lesquels je veux m'investir. Mais le domaine de la prévention environnementale et de la prévention des comportements à risque, le domaine du médicament, dans lequel nous avons des soucis d'évaluation, de prix, de pénurie de médicaments, tout celui de la réinsertion après une maladie et des différentes recommandations qui tournent autour, et puis bien évidemment la nécessité absolue d'avoir des consortiums internationaux et donc européens de recherche, sont des sujets, encore une fois, qui se traitent ici au Parlement européen et qui ne sont pas ou pas tout à fait des prérogatives nationales.
Alors comme on le disait en introduction, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier en cancérologie et vous co-présidez ici l'intergroupe parlementaire contre le cancer. Donc au Parlement, vous avez un intergroupe où cette fois-ci, ce sont toutes les familles politiques qui se réunissent sur ce sujet-là. Le 4 juin s'est tenue la journée mondiale contre le cancer et dans ce cadre, vous avez participé au lancement d'une consultation publique à l'échelle de l'Union sur le plan de lutte contre le cancer. Alors quelques chiffres qui sont assez effrayants. Selon les chiffres d'Eurostat, un nouveau cas de cancer est diagnostiqué toutes les 9 secondes dans l'Union européenne et on déplore chaque année plus de 1,3 million de décès dus à cette maladie. Passé ce constat terrible, pourriez-vous nous préciser quel rôle joue l'Union européenne dans la lutte contre le cancer ou en tout cas aussi le rôle que voudriez qu'elle joue ?
Tout à fait, vous avez raison, ces chiffres sont éloquents. J'ajouterai les 6000 enfants qui meurent par an de cancers pédiatriques qui sont des situations rares. Les maladies rares, les situations rares, les cancers rares sont typiquement ceux dans lesquels nous avons besoin de la masse critique et de la force de frappe de plusieurs États et du continent européen pour activer la recherche et l'accompagnement des patients. Cette journée du 4 février, et non pas du 4 juin, est une journée qui a été voulue à l'initiative de la Commission européenne. Donc il y a eu des signaux très forts. La Commission européenne vient au Parlement européen présenter devant les eurodéputés son projet. Le cancer n'est ni de droite ni de gauche. Ça se voit de manière éclatante, vous l'avez dit, dans ce groupe de députés engagés dans la lutte contre le cancer que je préside et que je co-préside avec un député PPE. C'est un sujet qui n'est pas clivant, qui nous rassemble tous et pour lequel nous avons vraiment besoin d'un grand mouvement de la Commission, du Parlement et ensuite des États membres qui devront eux aussi participer à cette grande dynamique où l'Europe a vraiment un rôle à jouer, encore une fois, sur les domaines de la prévention, sur les situations rares, sur les négociations avec l'industrie du médicament qui se font tellement mieux quand on est à 26 et toute une, à 27, pardon, et toute une série de sujets pour lesquels c'est vraiment cette échelle-là dont nous avons besoin pour progresser.
On pourrait aussi ajouter que le cancer, vu que ça concerne également tout le monde et tous les États membres, tous les États membres sont touchés, ce qui est d'une certaine manière logique, peut aussi ressentir après un sentiment d'attachement à l'Union européenne si elle mène des actions, cette fois-ci, pour un sujet qui touche tout le monde. Est-ce que vous en rendez compte ? Est-ce qu'il y a moyen aussi de montrer aux Européens que c'est un sujet qui les concerne et dont l'Union européenne devrait s'occuper plus ?
Je vous remercie infiniment pour cette question. La principale préoccupation des citoyens européens et des citoyens français, c'est leur santé. Je trouve que le monde politique, et en particulier européen, ne leur parle pas assez de ce sujet, ne leur explique pas suffisamment bien que tout ce qu'on fait pour l'environnement et le climat, le Green Deal, on le fait pour leur santé. On améliore la qualité de l'air pour diminuer l'incidence des cancers du poumon, pour diminuer l'asthme, les maladies respiratoires. On se débarrasse des polluants de l'environnement pour améliorer la santé des adultes et des enfants. Je trouve qu'on ne fait pas assez de pédagogie de base qui consiste à dire aux gens que oui, on s'occupe bien de leurs principales préoccupations, quel que soit leur âge, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur pays, c'est leur santé.
Alors revenons après sur ce plan cancer. Il a été lancé par d'abord une consultation. Alors expliquez-nous ce que c'est cette consultation. Est-ce que quand on dit consultation, c'est-à-dire qui est consulté, qui peut participer ? Et ensuite, quel est l'objectif de cette consultation ?
C'est une consultation citoyenne qui interroge à la fois les individus, les organisations et les parties prenantes et qui consiste à faire remonter les grandes demandes, les grandes attentes, les grandes suggestions des principaux concernés que sont les citoyens, les associations de patients et leurs représentants.
C'est des associations de patients, c'est pas directement les patients qui pourraient participer à cette consultation ?
On peut aussi participer tout à fait directement.
Et donc l'objectif de cette consultation et de ce plan serait, quelle est vraiment l'idée de l'objectif de la commissaire à la santé, de vous ?
Alors, la commissaire à la santé a une feuille de route qui comporte un certain nombre de sujets forts qu'elle doit porter. Le Green Deal et la prévention environnementale qui est essentiellement de la prévention contre le cancer, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'étiquetage alimentaire. Vous savez qu'une bonne partie des cancers sont directement liés à l'alimentation, mais aussi bien évidemment la lutte contre le tabagisme, contre la sédentarité et contre tous ces facteurs de malbouffe, de moins bien bouger qui prédisposent au cancer. Elle a aussi dans sa feuille de route un volet médicaments. Les médicaments, pour être plus facilement et plus équitablement accessibles, devraient être évalués de façon plus harmonieuse entre les différents pays. Nous devrions nous organiser pour ne plus être les otages des grandes plateformes de production des médicaments qui sont essentiellement en Chine et en Inde. Je n'ai pas la solution à ce problème, mais je vois qu'il est posé à l'échelle européenne. Nous serions plus forts si nous étions capables de négocier les prix des médicaments à 5 ou 6, voire à 27, plutôt que de manière bilatérale. Et puis, nous avons également des sujets de reconnaissance mutuelle de nos diplômes, d'accompagnement des personnes dans la fin de vie, de formation aux soins palliatifs. Donc, nous avons toute une série de sujets qui sont précisément dans la feuille de route.
Et certainement, la recherche également.
Alors, je ne parle pas de la recherche dans ce plan parce qu'en fait, il se trouve qu'elle est sous la dépendance d'un financement spécifique qui est directement issu de la Commission, qui est important. Il y a un volet santé et dans ce volet santé, il y a clairement un volet cancer qui vient bien évidemment nous aider à progresser dans les différents domaines de recherche.
Alors on disait en introduction que au cours de cette session était en débat la négociation du budget pluriannuel de l'Union européenne. Alors on sait que le budget de l'Union européenne, on le sait, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, c'est à peu près 1% hein, de la richesse de chaque État membre. Quel devrait être le budget de ce plan cancer, selon vous ?
Alors, je n'ai pas d'idée du montant. En revanche, une de mes premières actions en arrivant dans ce Parlement a été de faire passer un amendement au premier vote budgétaire qui consistait à dire on devrait faire un plan cancer et si on le fait, il faudra le financer. Ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant. Les négociations sont effectivement actuellement en cours pour convaincre les États membres d'abonder plus largement au budget de l'Union européenne, en particulier sur ces grandes priorités dont le cancer fera partie, en mobilisant toutes les ressources possibles, aussi bien celles qui proviennent directement des États que celles qui pourraient éventuellement être issues d'un certain nombre de taxes douanières ou autres qui pourraient également aider à financer ce plan.
Alors on disait en introduction, vous êtes membre de la commission environnement, santé publique et
sécurité alimentaire.
Revenons alors sur un autre sujet qui fait partie de l'actualité actuellement, mais qui vient un peu plus loin, qui montre un peu ce monde globalisé dans lequel on vit et dont, qui pose des problèmes de santé publique. C'est la fameuse crise autour du coronavirus. Ce virus nous montre à nouveau donc, que les menaces sanitaires peuvent être globales, comme je le disais. Que préconise l'Union européenne et quelle action mène l'Union européenne sur ce sujet ? Et vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, vous avez raison de dire que cette épidémie nous montre ce qu'on a beaucoup dit pendant la campagne contre les attitudes de repli sur soi et de localisme qui n'ont aucun sens. Les grandes crises sanitaires seront mondiales, seront européennes. Organisons-nous plutôt que de nous replier sur nous-mêmes. La crise du coronavirus a montré la capacité de l'Union européenne à se mobiliser, à éditer très rapidement pour les professionnels de santé dont je fais partie des recommandations simples et applicables, à aider le rapatriement des ressortissants qui se trouvaient dans la zone infectée de Wuhan. Et il faut dire également qu'il y a eu un financement spécifiquement ciblé sur la recherche pour le coronavirus qui est de 10 millions d'euros. Dans ce contexte, je trouve que l'Europe est à sa place si elle ne se pose pas en donneur de leçons vis-à-vis de tel ou tel régime qui ne respecte pas, comme on le voudrait, les droits de l'homme, où elle a vraiment une attitude de solidarité, une solidarité d'ailleurs dont elle aura les retours sur investissement parce qu'on est tous dans le même bateau. Je trouve également, et je vais le dire ce soir en session plénière, qu'on ne regarde pas assez du côté des pays qui sont les plus menacés, qui sont les pays où les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire sont pauvres, au premier rang desquels l'Afrique. Afrique où par ailleurs se trouvent de très nombreux ressortissants chinois. Si une épidémie a lieu en Chine, ou en Europe, elle peut être relativement cernée par les moyens considérables qui peuvent être mis à disposition. Si elle a lieu en Afrique, on sait très bien qu'on va se heurter à la faible disponibilité des tests, à la mauvaise disponibilité d'un environnement sanitaire qui permet le confinement et le traitement. Donc, sur ces aspects-là, soyons mondiaux, soyons solidaires et ne soyons pas en compétition les uns vis-à-vis des autres et ne profitons pas d'un problème de santé publique pour l'instrumentaliser en politique plus générale. Le temps viendra, mais pour le moment, c'est une crise qu'il faut traiter comme telle.
Je voulais vous poser une question sur la gestion. Quel enseignement vous tiriez de la gestion par la Chine de cette crise ?
On ne connaît pas tout ce qui se passe en Chine. J'y vais suffisamment souvent pour savoir qu'ils ont un système de santé qu'on pourrait leur envier à bien des égards. Les manières de faire ne sont pas celles de nos pays démocratiques européens. Pour le moment, la Chine communique des informations scientifiques, a donné les informations qui ont permis de séquencer le virus, accepte les collaborations, en particulier de l'Organisation mondiale de la santé, et au regard de l'énormité du pays et de la population, fait pour le moment plutôt ce qui est en accord avec les grandes recommandations, pour ce qu'on en sait d'un pays qui, par ailleurs, n'a pas pour habitude de communiquer tous les jours sur tout.
Au cours de cette session, les députés débattent de l'intelligence artificielle. Vous, à cette fois-ci, en tant que médecin, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle technologie, de tout ce qu'on peut retirer de l'intelligence artificielle ? Et là aussi, quel devrait être le rôle, à nouveau, en tant que régulateur de l'Union européenne autour de ce sujet ?
Alors, en tant que médecin et en tant que patient potentiel, j'attends énormément de l'intelligence artificielle en médecine. Ce sont les robots, ce sont les algorithmes d'aide à la décision. Et surtout, particulièrement en cancérologie, c'est l'énorme masse de progrès que nous avons fait grâce aux fameuses big data. Notre groupe Renew travaille de façon très consensuelle sur les problématiques éthiques et sociétales qui découlent de l'intelligence artificielle en général et en particulier dans le domaine de la médecine. Il y a des spécificités de l'intelligence artificielle en santé. Nous sommes actuellement confrontés à des algorithmes qui nous permettent d'aider nos décisions. Ce qu'il ne faudrait pas voir advenir, ce sont des algorithmes qui se substitueraient aux médecins sans aucune supervision de la pertinence et de la qualité des décisions. C'est un des aspects que nous défendons.
Concrètement, vous pouvez nous donner un cas concret où cette question pourrait se poser de cette manière-là ?
Concrètement, actuellement, en cancérologie, nous utilisons des algorithmes qui nous aident, par exemple, à décider si une dame qui vient de se trouver un cancer du sein et qui a été opéré, relève ou non d'une chimiothérapie. Ces algorithmes prennent en compte un certain nombre d'éléments très techniques qui sont la taille de la tumeur, ses caractéristiques biologiques diverses et variées. Ces critères-là doivent impérativement prendre en compte les comorbidités éventuelles que peut présenter cette dame, des maladies associées et surtout ses conditions de vie sociale, économique, familiale, et puis par-dessus tout, bien évidemment, son propre avis à elle et son propre choix à elle. Donc nous sommes typiquement dans un domaine où l'éthique doit venir compléter la haute technologie.
Voilà un sujet qui risque encore d'être à l'ordre du jour du Parlement européen. Alors, j'aimerais qu'on termine cette émission. Finalement, elle est passée très très vite sur ces sujets-là. Et continuez à mieux vous connaître en vous posant des petites questions dans une rubrique qui s'appelle Catch the Eye, qui sont en fait des questions-réponses courtes, des questions courtes et des réponses courtes.
J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
Alors, quelle est pour vous la plus grande réussite de l'Union européenne ?
Réponse courte, Erasmus.
Et son plus grand échec, si vous considérez qu'il y en a ?
Réponse courte, le Brexit.
Quelle est votre langue préférée, hormis le français ? Je crois que vous aimez beaucoup les langues.
J'aime beaucoup les langues. Je parle l'anglais. J'ai appris le russe à l'école et je n'ai pas pu supporter d'aller plus de 2 fois successives à Shanghai sans apprendre un peu de mandarin. Donc lorsque je me balade dans les rues de Shanghai, j'arrive à demander mon chemin. C'est à peu près tout.
Ce qui est déjà pas facile. Et continuons, quel est votre plat préféré ?
Alors je suis assez légumes, sans être pour autant végane. J'aime beaucoup les légumes verts. Qu'est-ce que je pourrais citer ? Je ne sais pas, peut-être les lentilles, allez.
Et enfin pour terminer, restons sur un conseil, cette fois-ci culturel, un conseil lecture peut-être, un conseil musique ou expo, ou d'un lieu que vous avez apprécié, que vous pensez qu'il peut-être peu connu, qu'il faudrait découvrir.
Alors, je suis en train de lire le dernier roman d'Eric Orsena, si on peut parler de roman. C'est une espèce de fiction qui dérive un peu autour du couple. J'ai trouvé ça très intéressant. J'aime beaucoup Eric Orsena.
Il y avait un conseil aussi culturel type expo ou un lieu que vous avez...
Alors, l'expo, j'avais adoré l'expo Audrey Hepburn à Bruxelles, mais ici, on est à Strasbourg. Je vais pas mal dans les expositions à Bruxelles maintenant. Il y a des très belles choses sur Bruegel également. La culture, c'est important pour moi.
Ben merci Madame Triet-Lenoir pour votre participation à l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. L'émission sera rapidement en podcast sur le site de la radio. À bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe.